La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
The King, c'est Patrick Marshall.
Question du bijou contemporain. Au Grand Ornu, centre d'innovation et de design.
Alors Patrick est orfèvre plasticien belge. Et donc c'est de façon assez inhabituelle une exposition de bijoux contemporains que nous vous proposons au CID. Et c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'en a plus montré.
Le propre de l'art contemporain aujourd'hui, c'est de mixer les médiums. L'artiste est bien plus libre qu'il ne l'était par exemple au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Et donc aujourd'hui, l'artiste peut se permettre d'exploiter, selon ses envies, selon ses besoins, tous les médiums qui se trouvent à sa portée.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Petite place de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
le monde invisible.
Mais ces bijoux ont l'air de lancer des conversations. C'est une sorte de commentaire sur l'actualité, une sorte de commentaire sur la marche du monde en général.
Question du bijou contemporain. Au Grand Ornu, centre d'innovation et de design, Do You See the King, jusqu'au 11 février. Avec Marie Poc, Françoise Van der Hoora et Patrick Marshall.
Alors, Patrick Marshall est donc un orfèvre expérimenté. J'évacue la question tout de suite, c'est un très grand technicien, mais c'est pas ça qui est important. Et donc, ce que je vous disais, c'est que ce qui m'a intéressé dans son travail, c'est son engagement. Un engagement qui est à la fois politique, économique, sociologique.
À Mons, Triennale du bijou contemporain jusqu'au 4 février. Avec Nevin Aric, Anne Gua, Ornella Lavacara, Clémentine Corazzola, Prune Boyer, Marine Dominitzak et Marion Delarue, prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La vitrine montre d'abord une encyclopédie d'hydro, donc en fait qui reprend les schémas des outils de bijouterie traditionnels, qui finalement représente l'outillage avec lequel je travaille et les techniques que j'utilise, mais qui sont traduites dans une actualité contemporaine où ici on retrouve une photographie prise à Beyrouth d'un immeuble détruit avec une personne qui est dans le désarroi total. Et cette photo se trouve sur des dessins qui illustrent le début de ma réflexion plastique. Donc par rapport à cette idée, à cette image, j'ai voyagé au Liban il y a une vingtaine d'années et donc ça m'avait vraiment frappé cette situation. Et donc je l'ai retranscrit ici dans des croquis pour faire des recherches et trouver une certaine symbolisation. Donc par rapport au sucre, et on retrouve les quelques outils qui ont servi à la réalisation de cette pièce. Il y a très très peu d'outils.
Alors c'est un titre qui interroge la position, le statut de l'artiste.
Tout à fait, sur la droite, un sucre posé sur une enclume qui est un peu le paradoxe entre le léger, le lourd, la fragilité, la dureté, et finalement qui est très représentatif de tout ce que notre société en fait nous impose et que nous imposons, puisque le roi peut imposer aussi ce qu'il veut dans la société. Et je ne suis bien sûr pas le roi.
Qui finalement est le roi ? Est-ce que c'est l'artiste ? Est-ce que c'est celui qui va porter le bijou ? Ou est-ce le bijou ?
Question du bijou contemporain par Thierry Genico. Le monde invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Moi, j'ai eu, on va dire, des retours où finalement mon travail artistique vient d'un questionnement, donc de ma place dans la société, de la place qu'on me propose ou on me la donne pas, on me la propose, la place que je peux prendre. Et effectivement, quand je fais une démarche par rapport, donc là, à cette couronne, ça me fait réfléchir sur cette notion de pouvoir, de rôle. Et il y a, je dirais, en tant qu'artiste, une certaine réflexion qui découle du travail réalisé. Donc, quand j'ai certaines craintes par rapport à des sujets, et notamment d'actualité, où je peux être fâché, entre guillemets, vis-à-vis du pouvoir ou de certaines personnes, plutôt que d'être en révolte, je fais un travail de recherche et généralement, ce travail me réconcilie avec quelque chose qui, de prime abord, ne me plaisait pas forcément. Cette maturation vient également par le travail de la pièce et également ce que les matériaux peuvent m'apporter, puisque je choisis mes matériaux en fonction du sujet développé et que je n'ai pas un matériau de prédilection particulier, si ce n'est, comme je dis, ma matière grise qui malheureusement est biodégradable.
Marie Poc, le bijou que vous préférez?
D'emblée, la couronne.
La décrire, cette couronne?
Alors, il y a une structure en acier qui ceint la tête et puis qui permet de porter des petits éléments. Et vous voyez, ces éléments sont des lingots d'or suisses.
Montrez, plus près.
Françoise Van der Rovera.
Voilà, donc cette couronne qui est assez encombrante, hein, on va dire, est formée d'une structure en acier qu'on porte sur la tête et les parties supérieures de cette structure d'acier portent des éléments en or. Ce sont des lingots suisses. Alors pourquoi ça me touche ? Parce que ça rejoint toute une série de préoccupations qui sont avant tout des préoccupations personnelles mais qui vont avoir des répercussions aussi dans la programmation du CID en 2018 puisqu'on va se pencher sur une thématique de société qui est la décroissance. Alors la décroissance, ça part d'un constat qui est qu'on vit à crédit sur une planète dont les ressources ont été épuisées par l'humain et qu'on continue à produire toujours, toujours plus. Pourquoi ? Parce que c'est le système capitaliste qui veut ça. Tous les États, les industries et les individus vivent à crédit. Or, il faut rembourser des intérêts pour rembourser son crédit. Donc, on est engagé dans une espèce de course à la croissance obligatoire. Et à un moment, ce système, il est au bord de l'explosion et ça ne tiendra pas, c'est impossible. Notre planète est une planète finie, avec des ressources limitées, donc il faut absolument sortir de ça. Et ce bijou parle de ça. Ce bijou, c'est un regard critique sur ce système de la finance, sur la spéculation, sur les Golden Boys. C'est ça qui est fabuleux dans le travail de Patrick Marshall, c'est qu'il se saisit de tous ces sujets d'actualité et qu'il porte un regard qui est à la fois un regard critique et acerbe, mais aussi un regard avec un certain humour. Il y a toujours un petit décalage comme ça, il y a un petit sourire en embuscade derrière. Donc c'est pas quelqu'un qui donne des leçons, c'est pas quelqu'un qui dénonce pour dénoncer, c'est quelqu'un qui lance des conversations avec son petit sourire. Et puis voilà, ça appelle évidemment le visiteur à réagir et à projeter sur cet objet couronne, par exemple, sa propre interprétation.
Je suis passionnée de bijoux contemporains. J'ai ouvert une galerie de bijoux contemporains en 2011. C'est une galerie qui a duré 3 ans et j'ai fait 10 expositions. La première exposition était avec Patrick Marshall.
Et c'est un objet qui est immuable.
Ça, c'est toute la question. Pour beaucoup de bijoux de Patrick, on se demande est-ce que c'est portable ou pas. Alors, il y a un souci ergonomique dans le travail de Patrick. C'est un orfèvre bijoutier qui a travaillé pour de grandes enseignes et qui sait ce que c'est qu'un bijou et qui sait comment le faire, comment le fabriquer, de sorte qu'il soit portable. Ceci dit, ce sont des objets qui ont une telle présence physique qu'il est évidemment très difficile de s'imaginer que ces objets soient portés. Derrière l'idée de portabilité, il y a aussi toute l'idée de la fonction sociale d'un objet. Une couronne, tout le monde ne porte pas une couronne, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est la symbolique qu'il y a quand on revêt la couronne ou est-ce que c'est le côté confortable de l'objet ? Ce sont toutes ces questions-là qu'il soulève à travers ces objets qui sont, il faut bien le reconnaître, parfois difficiles à identifier.
Oui, c'est la question de la parure qui est mise en scène et qui est interrogée.
Oui, dans d'autres civilisations que les nôtres, c'est encore plus frappant. La parure n'a pas uniquement une fonction décorative, elle a une fonction symbolique. Elle identifie la personne qui a le pouvoir ou qui a certains pouvoirs. Et donc oui, il y a évidemment toute la charge symbolique de ces objets, de ces parures.
Nous sommes face à la céramique, à la peinture, à la photographie, au textile, à l'art du fer, à l'art du papier, à l'art du bois, mais aussi aux arts visuels, à la performance, à l'art sonore, toute une série d'arts différents. Et les artistes du bijou actuel, en tant qu'artistes contemporains d'abord, utilisent tous ces médias pour nourrir leur discours. Voilà.
La scénographie Nous sommes dans une espèce de lieu en expansion circulaire, n'est-ce pas?
C'est une arène. On reconnaît effectivement la forme circulaire, les socles qui ont cette forme arrondie et qui sont disposés en gradins évoquent cette arène. Alors l'arène, c'est quoi? C'est le lieu, l'espace public où se déroulent les jeux. Marion Bernhardt, qui est la scénographe, a voulu parler du jeu. C'est quelque chose qu'on retrouve très fort dans l'esprit de Patrick Marshall. Il y a quelque chose de très ludique dans son approche, même si les messages qu'il délivre sont des messages d'adultes. Il commente notre monde et notre vie d'adultes, mais avec ce côté, je vous disais, ce sourire en embuscade, ce côté un petit peu ludique. Et donc, Marion Bernhardt a symbolisé cette idée du jeu à travers cette scénographie en forme d'arène. Au centre de l'arène, on a un grand disque solaire. C'est un tapis aux vibrations dorées. Au centre de l'arène, on a plusieurs marches qui mènent à un trône. Alors le visiteur, et c'est important de le dire, le visiteur est amené à monter, à escalader ces marches et à aller s'asseoir sur le trône. Voilà, donc le visiteur, c'est le roi du jour, c'est 15 minutes de gloire, de célébrité, c'est ici que ça se passe donc.
Marie Poch, vous dites arène, vous dites jeu, mais vous dites pas mise à mort, parce que c'est là que le taureau...
C'est vrai, ça c'est parce que j'ai lu de la question de la mise à mort, mais évidemment que ça comprend tout ça. Évidemment, c'est pas d'ailleurs la seule chose dans le travail de Patrick Marshall qui parle de ça. Regardez Guillotin Ier, c'est ce collier en forme de guillotine, on porte une guillotine autour du cou. C'est d'une violence, d'une force, en même temps c'est interpellant. Alors là on se demande si le sourire de Patrick est encore un sourire ou si c'est un sourire sadique, mais effectivement il y a une idée de mise à mort. Regardez les petits objets, les boucles d'oreilles qui sont des bombes, qui sont prêtes à vous exploser dessus. Vous portez la bombe, ça a aussi toute une symbolique. Bien sûr, il y a en embuscade aussi l'idée de la mort dans le travail de Patrick.
La menotte solidarity, il y a deux choses dans ma démarche d'artiste qui m'ont guidé vers ce choix. Alors la première chose, c'est le corps, puisqu'il y a quand même un rapport au corps. La menotte, c'est comme la couronne, c'est quelque chose qui parle à tout le monde et qu'à un moment, on a envie, en tant que créateur, de pouvoir développer. Donc ça, on va dire que c'est plutôt l'aspect fonctionnel du bijou. Et la deuxième chose, c'était évidemment l'usage de cette menotte et en fait sa forme. Et donc, j'ai fait la démarche d'aller d'abord dans un stock américain qui n'est pas vraiment l'endroit où je préfère passer mes samedis après-midi. Et là, j'ai eu le choix entre des menottes de policiers ou bien des menottes de jeu de couple. La menotte de jeu de couple est en plastique, ce qui permet de se libérer si jamais on n'a pas un accord dans la soirée qui devrait trop se prolonger. Ici, ce sont les menottes de policiers, donc en acier inoxydable. Et j'ai modifié la forme pour utiliser en fait la clé qui permet de ouvrir et de libérer l'emprisonnement. En fait, la clé qui est l'objet de libération est en fait le canon. Ça symbolise le canon d'un tank. Et donc, le nom que je lui donne, c'est Solidarity, qui est un mélange entre solidarité et military en anglais. Et donc, évidemment, toute la question de la révolte, de dire « si je tue quelqu'un, je libère une personne, pour libérer une personne, je dois tuer quelqu'un ». Je n'ai pas de réponse, je propose simplement une réflexion où, effectivement, je ne suis pas révolté contre la libération, quand même un petit peu contre l'armement, mais je ne comprends pas le principe de se dire « je suis un sauveur » alors que j'ai tué quelqu'un pour sauver quelqu'un d'autre.
Et pourquoi dites-vous bijoux?
Alors bijoux parce que systématiquement le rapport au corps est existant et la première entre guillemets donnée. Je vais développer ma thématique déjà par rapport au corps et je développe l'objet aussi en fonction du corps. Et donc la deuxième partie c'est l'aspect social dans la fonction du bijou, c'est ce qui va faire que je dégage un sentiment. Si je porte mon étoile de shérif, je ne vous ferai pas réagir de la même façon que si je portais une autre étoile.
Une parure.
Tout à fait. Une parure pour paraître. Et donc les derniers bijoux justement avec le sucre sont des bijoux réalisés dans une matière éphémère. En même temps, ce côté éphémère, le sucre posé sur votre peau peut fondre. Le fait de pouvoir goûter, on pourrait imaginer même un jeu sensuel. Et le fait justement de pouvoir travailler avec un autre sens que celui du toucher, je pense que ça éveille des émotions qui sont très très importantes. Et je pense que le goût qu'on a, que ce soit le goût amer ou le goût sucré, à 50 ans, on peut revivre une émotion qu'on a à 5 ans.
Oui, j'entendais dans la vidéo le mot « sucre d'orge ».
Le sucre d'orge, qui a une connotation très, qui évoque l'enfance, il y a une forme de poésie, et en tout cas par rapport à l'enfance, ça dégage effectivement une notion d'insouciance. La notion de l'insouciance est tout à fait primordiale, et d'ailleurs, je trouve par rapport aux bijoux contemporains, il y a une expérience très très intéressante à faire, c'est de proposer un bijou contemporain à un enfant ou à un adulte avec son vécu, et la réaction sera tout à fait différente, ce qui prouve bien l'intérêt en fait du message qu'on peut passer. Et le fait de pouvoir travailler avec le goût, voilà, le sucre d'orge, rien que le mot nous fait traverser dans le temps.
Johanna Tangqvist, qui est une artiste suédoise, qui, elle, travaille avec les arts visuels. Alors, pour nourrir son propos, elle crée un bijou qui est un collier, en fait, une sorte de parure, puisqu'il s'agit d'une série de colliers qui se posent sur l'épaule. Cette parure est créée à partir de déchets qu'elle récolte, des déchets qui sont symboles, évidemment, de l'hyperconsommation. Et donc, pour nourrir ce discours-là, elle projette une vidéo à l'arrière. Une vidéo qui n'est qu'une simple proposition, finalement, une proposition poétique de la parure portée par un modèle. Donc voilà, on est entre l'art visuel, on est entre le stylisme, mais aussi un peu les art and craft, avec des matériaux qui finalement ne sont même plus des matériaux de haut de gamme, qui sont considérés comme nobles. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose que les artistes défendent beaucoup aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle une matière considérée comme non noble peut totalement être jugée noble pour certaines personnes. Donc ici, beaucoup d'artistes remettent en question ces matériaux.
Poupée Barbie, n'est-ce pas ?
Oui. Ben, on est beaucoup à pouvoir la reconnaître, donc de nouveau dans un travail en tant qu'artiste, c'est très intéressant de pouvoir utiliser comme matière première une image entre guillemets qui est pratiquement universelle, Barbie, qui dégage énormément de choses. Et donc là, en fait, le travail que j'ai voulu réaliser, C'était de remettre entre guillemets Barbie pas au goût du jour, mais plutôt de se dire, tiens, qu'est-ce que la société attend aujourd'hui de la femme, ou plutôt pas qu'est-ce qu'elle attend, mais plutôt qu'est-ce qu'elle lui impose. Donc Barbie, ben, la première démarche, c'est d'aller l'acheter. Donc en tant qu'adulte, aller choisir une Barbie méticuleusement parce qu'il fallait que les bras soient articulés pour certaines raisons fonctionnelles dans le bijou, voilà, c'est déjà une démarche qui commence. Et bon, il y a eu un choix de matériaux, ce positionnement en croix qui est particulier. Donc on a quand même une Barbie, mais c'est... Pour moi aussi, je garde l'image de ces athlètes russes qui faisaient la croix de fer sur des anneaux.
Et c'est vrai que les bombes qui ont explosé ces dernières années étaient portées par des hommes, près du corps, n'est-ce pas ?
Oui, alors effectivement, ça a cette résonance douloureuse de bombes qui sont véritablement portées sur le corps, en ceinture, et qui là se retrouvent en termes de parure, en objet qu'on montre, qu'on affirme. Qu'est-ce qu'on affirme en portant une bombe sur soi ?
Triennale du bijou contemporain à Mons, avec trois pays représentés.
Oui, tout à fait.
La Suède,
oui.
La France,
oui.
Et la Belgique.
Oui.
Trois esprits différents ? Trois attitudes ?
Non. Voilà. Non, je ne pense pas. Et je pense que ce qui est beau là-dedans, justement, on le voit au travers des discours et des textes des commissaires, qu'on essaye de dégager une ligne directrice, une identité nationale, si l'on peut dire ça comme ça. Mais je pense qu'au regard de toutes ces pièces, l'identité commune est vraiment très très forte. Et je pense qu'aucun artiste, aucune nationalité ne se différencie d'une autre. Évidemment, c'est mon point de vue.
Je suis Nevin Arik, créatrice de bijoux. Je viens de Turquie, originaire d'Istanbul. Conseil d'administration, mais j'étais dans le jury. Ouais. Des bijoux, mais il y a aussi une partie art contemporain. Je trouve maintenant ça commence à mélanger avec les bijoux et l'art contemporain. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est le public qui va décider. Et pour moi, le bijou doit être portable et pas des sculptures et pas des visuels, enfin pas des vidéos, pas des choses démesurées, parce que ça doit être lié avec le corps.
Elle joue beaucoup sur les vibrations, elle travaille aussi avec les socles. Mon nom, c'est Lavacara Ornella. Et donc ces broches vibrent. L'artiste a intégré dans le socle une sorte de marteau. Marteau que tout qui souhaite, finalement, peut toucher et actionner de manière à faire vibrer le socle. Et cette vibration va engendrer une vibration, donc une sorte de danse finalement de la broche qu'elle a créée. Elle veut vraiment que ces broches vivent. En fait,
ce sont des bijoux que vous montrez au nombre de 3.
Et l'installation comprend 5 molécules qui sont elles-mêmes 5 petites broches. Et c'est des molécules d'état.
Des molécules
d'état. Alors, pour revenir ici, je m'en suis fabriqué une. C'est la molécule de la quiétude.
Sans aller plus loin, sans discours, sans que de la poésie, que du plaisir.
Ben, c'est un tétraèdre. Je pense qu'il y a 9 petites billes en or, toutes petites. Et alors, on s'est invoqué un état pour le conserver. On s'est conjuré un état. On s'est appeler un état. Voilà, et là j'ai décidé de fabriquer, d'invoquer la quiétude pour ce soir. Et ici donc les molécules sont en interaction avec les nappes sonores, qui sont des fréquences sonores, donc qui sont envoyées dans l'enceinte à vibration. Et c'est pour expliquer que nous sommes des catalyseurs et des objets finalement en interaction avec le monde qui nous entoure. Un micro-enregistreur, et en fait on peut transporter la parole de l'être cher, parce que dans l'histoire du bijou, en fait le bijou est toujours un bijou qu'on colporte et qu'on transmet de génération en génération, et là l'idée c'était qu'on pouvait aussi transmettre le son de la voix et pourquoi pas l'anecdote de mamie qui disait toujours je sais pas, tu vas attraper froid, ferme la fenêtre quand il y a des éclairs ou l'orage rentrera dans la maison. Voilà, et donc là, la mère évoque cette idée de transport de la mémoire et de la parole, parce que je pouvais pas mettre un véritable témoignage, c'est tellement personnel que je pouvais pas l'exposer. Je pouvais pas mettre le mien de témoignage, celui de ma grand-mère, ou je pouvais pas choisir quelqu'un pour le faire. Donc j'ai juste offert cette clé de transmission. La mer, d'où nous venons tous, la mer. Clémentine Corazzola.
Le bijou s'éloigne tellement de la bijouterie traditionnelle aujourd'hui, dans le domaine contemporain, qu'évidemment, il se rapporte au design.
Pour moi, oui, ça doit être une parure, oui. Et c'est un concours de bijoux, et ça doit être portable. Même si c'est grand, jusque par terre, même si c'est démesuré, mais ça doit être portable.
Les présentoirs sont des échafaudages, en réalité. Les échafaudages, évidemment, mettent en évidence l'idée du processus, le processus qui est aussi un processus artistique. Ce n'est pas que lié aux travaux, c'est vraiment lié à l'évolution. En l'occurrence, ici, je pense que ces échafaudages sont vraiment le reflet du discours que portent les artistes qui sont représentés.
Il y a aussi architecture, il y a aussi la céramique, il y a aussi le textile. Donc dans toutes ces disciplines, ça commence à mélanger. Voilà, parce que les créateurs de bijoux sont des artistes, évidemment, bijoux contemporains. Et ils ont, de temps en temps, envie de faire des pièces plus grandes, plus volumineuses, plus qui rentrent dans le territoire de l'art contemporain. Et ils ont envie d'exprimer d'autres choses que le bijou, ça je comprends. Mais alors il faut faire les deux choses, pour moi c'est différent. Nevin Arik. Arik, oui.
Karin Roy Andersson, qui est de nouveau une artiste suédoise, très intéressée par le mouvement, l'élégance des poissons et des oiseaux, et qui reprend par ailleurs, et c'est une autre partie de son travail, une série de déchets plastiques qu'elle reprend, qu'elle ponce et qu'elle coud les uns aux autres de manière extrêmement minutieuse.
Le commissariat pour les artistes en bijoux contemporains belges, j'ai voulu en fait montrer que de plus en plus d'artistes se mettent en fait à faire du bijou qui ne sont pas forcément issus de la discipline du bijou contemporain. C'est une tendance que j'ai remarquée, voilà, depuis quelques années maintenant. Il faut savoir que les Belges sont chaque fois représentés au Triennale, donc c'est toujours deux pays qui sont invités, mais la Belgique est chaque fois présente. Il paraissait intéressant de venir avec une optique un petit peu différente et de confronter ça. Et puis aussi de faire remarquer qu'en Belgique, il y a vraiment une avant-garde pour le bijou d'art contemporain. C'est vrai que le fait qu'il y ait cette hybridation, donc ce mélange de plusieurs pratiques qu'on ressent dans les créations de bijoux contemporains aujourd'hui, me paraissait vraiment intéressant à montrer.
Ce sujet-là, c'est Galatée Pestre, une artiste française, qui elle reprend toute une série de bijoux qu'elle retrouve en fait à terre. Et ces bijoux, qui ne sont pas spécialement de noble qualité, comme on le disait tout à l'heure, mais qui sont pourtant regrettés, eh bien elle leur rend hommage, en leur donnant un écrin, qu'il soit d'argent ou de carton, peu importe. Elle leur rend hommage en les transformant, en les moulant dans du silicone et puis en les couvrant de feuilles d'or. Donc on a affaire justement à une renaissance finalement de l'objet, qui passe finalement de l'objet oublié, abandonné, à l'objet souvenir, l'objet rendu mémoire. Mon nom, c'est Lavacara Ornella.
Elle s'appelle Lodi Cardous. C'est une Française qui habite maintenant en Belgique depuis plusieurs années, et elle a commencé à la Rock Academy, une académie qui se trouve à Bruxelles, une académie néerlandophone. Et voilà, là, il y a des professeurs magnifiques. Il y a Max Guidis, il y a Peter Vermanderen qui sont très, très impliqués, qui font un travail formidable. Donc, pas seulement le travail des matériaux, de l'apprentissage des techniques, mais vraiment déjà aussi tout l'aspect artistique est extrêmement abordé, développé. Donc, c'est une académie, c'est ouvert à tout le monde. Et là, pendant à peu près 5 années, toute personne peut venir faire du bijou et voilà, passer là de très très bons moments d'expression.
Il y a aussi des artistes qui reprennent... Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Attendez. J'ai tellement de choses à dire.
Ça fait très longtemps, puisque j'ai décidé très jeune que je ferais des bijoux. J'ai fait des études de bijoux. Et voilà, et donc ça fait au moins 30 ans que je plonge dans le bijou et que je m'active beaucoup pour que le bijou puisse se faire et s'exposer. Mais là, c'est ma première expérience comme commissaire d'exposition.
On a quand même le sentiment qu'il y a une sorte de marque de fabrique par rapport au pays. Et ici, j'étais étonnée de voir justement... que ce n'était pas spécialement le cas, en tout cas pour la France. Et c'est vrai que la commissaire a souligné que beaucoup de Français en fait, avaient étudié à l'extérieur aussi. Donc là, on voit déjà aussi un brassage des tendances et des spécificités en fait, qui pourraient se dégager par pays. Mais actuellement, c'est un peu un leurre. C'est vrai que tout ça s'efface et on retrouve un peu de tout.
En quoi il s'est transformé? Ben moi, j'ai été assez vite plongée quand même dans cette expression-là du bijou qu'on appelle contemporain, voilà, mais dont on pourrait discuter les qualificatifs. longtemps. En quoi il a changé? Il y a de plus en plus en fait d'artistes qui s'intéressent aux bijoux, de plus en plus d'activités autour du bijou, et donc ça s'est étendu, je dirais. C'est surtout ça qui a changé. C'était très européen, c'est devenu complètement international. Du coup, il y a beaucoup de mouvements. Il y a des pays qu'on croisait pas et qu'on croise maintenant. C'est vraiment devenu très international.
Isabelle Carpentier, qui est également une des membres du WCCBF et dont nous sommes fiers, qui évolue extrêmement rapidement et qui nous présente aujourd'hui un travail très intéressant sur l'idée des ex-voto. Les ex-voto dont on ne parle plus spécialement aujourd'hui, qu'on n'utilise plus spécialement, mais qui font partie toujours de cet inconscient collectif. Les ex-voto étaient très très couramment utilisés, encore au 19e et 20e siècle, hein, évidemment. Ce sont des fragments de mémoire, comme par exemple des cheveux, ou bien alors des formes que l'on façonnait nous-mêmes et qu'on mettait sur l'autel de nos défunts. Ici, elle remet en évidence de nouvelles formes d'ex-voto qui peuvent paraître à la fois fascinantes grâce à cette brillance des micro-mosaïques qu'elle assemble entre elles et qui contrastent complètement avec le corian qu'elle travaille avec. Des formes fascinantes, mais à la fois un peu repoussantes. Et elle essaie de reposer la question du beau. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est considéré comme étant laid? Voilà. Par cette série-là, elle essaie vraiment de remettre en question ces fragments de mémoire, ces hommages rendus à ceux qu'on aime.
Jusqu'ici, vous n'avez cité que des femmes. C'est une pratique féminine?
Non, absolument pas. Non. Beaucoup de bijoutiers, artistes du bijou sont hommes, évidemment. Voici ce que Tobias Alm nous présente.
Avez-vous le sentiment que le bijou déborde aujourd'hui la question de la parure?
Dans le cas du bijou contemporain, ça a toujours été le cas. Ça n'a jamais été seulement un objet de décoration. C'était beaucoup... parler de toutes les valeurs alternatives du bijou. Et donc, aussi, ça a toujours été à la frontière entre les arts, le design, les arts appliqués. Donc, oui, ça a toujours un peu débordé, le bijou contemporain, bien sûr.
Voici ce que Tobias Alm nous présente. Il nous présente en fait une série de bijoux faisant référence aux ceinturons d'outils que portent les hommes. Tobias Alm, en fait, qui est un artiste suédois, je ne sais pas si je l'ai dit, part du principe que le bijou pour hommes n'est pas encore vraiment accepté. Les hommes portent du bijou, mais la plupart du temps, quand même, ce bijou-là est accepté lorsqu'il devient pratique. Donc, par exemple, comme les boutons de manchette. Et donc, du coup, lui, Tobias, en représentant un bijou ceinturon d'outils pour hommes, donc qui est vraiment symboliquement purement masculin, même si aujourd'hui on peut se poser beaucoup de questions, en représentant quelque chose de très, très symboliquement associé à l'homme, il essaye d'ouvrir et de poser la question de la place du bijou sur le corps de l'homme et de montrer toute l'importance pour l'homme de porter aussi un bijou, montrer que le bijou n'a pas de frontières ni même de sexe, surtout pas.
Je pense que volontiers, les hommes portent des médailles pour exhiber leur gloire.
Tout à fait. Et justement, les seules personnes qui ont représenté des médailles sont des femmes.
Et la jeune génération que vous observez?
Il y a quand même une grande tendance vers le conceptuel. C'est ce que moi j'observe beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, donc peut-être que mon regard est un peu influencé par ça, c'est un peu subjectif, je vais beaucoup vers ça, mais en même temps je vois qu'ils ont besoin justement d'encore aller plus loin et de déborder davantage et finalement le lien au corps peut même s'effacer maintenant petit à petit.
Monica Brugger, qui est une artiste française et qui parle d'héritage. Alors l'héritage du bijou, qui est une forme de transmission de famille en famille, mais qui est aussi l'héritage d'une position sociale. En l'occurrence, ici, elle crée une sorte de petite médaille qu'elle ne présente pas explicitement comme telle. Elle ne dit pas « c'est une médaille, je veux lui donner ce sens-là ». Mais elle interroge, comme elle dit, le corps social, le statut des gens que porte en lui le bijou. Selon elle, le bijou est un marqueur, est une forme d'étiquette sur la personne qui le porte. En l'occurrence, ici, en reprenant le modèle que nous reconnaissons tous, finalement, culturellement, qui est celui de la médaille, elle repose cette question de l'identité que l'on acquiert avec le bijou. Et donc, en remettant tout cela en question, elle se demande à quel point est-ce important d'avoir une identité précise, bien définie. Elle se demande pourquoi il ne s'agirait pas tout simplement d'une transmission, d'un héritage, d'un plaisir simple, et non pas d'une identité à acquérir absolument.
Elles, donc, qui sont liées à l'environnement, qui sont des débats très présents actuellement, et donc les artistes s'emparent de ça aussi. Et l'expriment à travers le bijou ou même d'autres supports artistiques. Ce sont des questions extrêmement présentes aujourd'hui. Et c'est bien. C'est bien qu'on aborde ça et qu'il y ait ces points de vue, le point de vue du bijou, le point de vue du bijou par rapport à ces questions-là, c'est important.
Donc on n'est plus dans une relation d'orfèvre.
Non, si ce n'est que, encore une fois, ce côté précieux, ils le détournent, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont venir avec des valeurs alternatives. Donc le précieux n'est peut-être plus dans les matériaux, effectivement, l'orfèvrerie, c'est en l'enchantement des matières précieuses. Ils vont aller chercher cet enchantement ailleurs.
Mon nom, c'est Lavacara, Ornella. Ornella Lavacara. Et je travaille au WCCBF en tant que chargée de projet. Et j'ai terminé mes études en histoire de l'art à l'Université de Liège.
Ah oui, on peut faire des bijoux avec tout. Et entre autres avec du papier.
C'est ce que vous faites?
Oui, je fais des bijoux en papier.
Et la question du bijou vous intéresse?
La question du bijou m'intéresse autant que m'intéresse la question de l'art contemporain.
Je dirais qu'à partir de mon travail de papier, j'ai commencé à faire des bijoux en papier et puis je suis passée à d'autres matériaux qui sont des matériaux plats aussi. Parfois je les choisis parce qu'ils sont plus résistants que du papier, mais ils ont certaines propriétés en tout cas qui sont très proches.
Et vous êtes membre du jury de cette triennale du bijou contemporain.
Oui.
Et vous avez un regard sur ce qui se fait aujourd'hui? Ou les préoccupations des artistes de ces trois pays, scandinaves pour la Suède, Belgique et France?
Oui, j'enseigne dans une école d'art et en même temps j'ai une pratique d'artisan d'art au départ. C'est vrai qu'en pratiquant la reliure d'art, qui est au départ ma formation, on est vraiment avec des bases techniques qui sont très importantes. Et puis dans une école d'art, c'est pas ça qui prime toujours, donc c'est comment on arrive à mélanger ces deux extrêmes parfois. Et dans le bijou contemporain, je pense que maintenant c'est très présent ça. Une approche qui est beaucoup plus libre, mais où les savoir-faire sont quand même présents et indispensables.
C'est d'un vaste inqualifiable, mais en même temps extrêmement intéressant, extrêmement fascinant.
Et il n'est pas toujours portable en même temps. Et parfois, il est objet, et c'est de se questionner, je pense, sur l'objet, à partir de quand un objet devient un bijou, à partir de quand il est une œuvre en tant que telle, à partir de quand c'est n'importe quelle petite chose de la vie qui devient un bijou.
Aujourd'hui, on est vraiment face à notre production actuelle. On n'a plus la distance comme on l'a pour l'art de la Renaissance, par exemple. Il est difficile de trier, de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais de se poser toutes ces questions-là, de se poser les fameuses questions existentielles que les philosophes nous ont toujours posées depuis toujours, c'est extrêmement important. Parce que remettre en question l'art contemporain, c'est se remettre en question soi. Et remettre en question la société, évidemment.
Le bijou est-il facilement diffusé aujourd'hui? Peut-on l'acquérir
Le bijou contemporain? Je ne pense pas. Je pense déjà que ça dépend de certains pays. Je sais qu'en Suède, en Hollande également, en Allemagne, quand on pense à Schmuck, évidemment, le bijou a une place assumée, déjà autorisée par tous. Ici, en l'occurrence, en Belgique, et je pense peut-être même moins en Wallonie, Bruxelles qu'en Flandre, le bijou a encore du mal à s'imposer. On est encore face à une scène privée, mais néanmoins très très active.
Et le dernier bijou que vous avez fait, vous, Anne Goy, c'est oui. Quoi ?
Ben, des chaînes. Là, je suis sur une série de chaînes qui sont au départ en papier, mais qui sont faites de strates de papier. Au départ, un maillon en papier, ça n'a aucune force. Et quand on fait une accumulation de couches de papier, ça devient fort. Et finalement, c'est aussi résistant presque qu'une chaîne, peut-être pas en métal, mais une chaîne dans un matériau dur.
À cette question du bijou contemporain, si je pense à la Hollande ou au Danemark.
Je pense qu'en Hollande, il y a eu très très vite ce côté plus conceptuel. Je pense que ça vient aussi des artistes qui ont eux-mêmes alors été dans les écoles et puis qui ont évidemment transmis en fait leur savoir et leurs tendances.
Technique du
casting de la Fantassière perdue. Et donc en bronze et Médusa en laiton. Et donc ce sont deux pièces qui ont été faites à des époques différentes. Et Noyade simule une bouée qui aurait été abandonnée dans des fonds marins qu'on aurait retrouvée. Et c'est un objet de noyade, une bouée qui noie en fait, un peu contradictoire, qui est composée d'une partie centrale en basalte. Sculpté grossièrement et avec deux cabochons qui l'assertissent de part et d'autre en bronze. Et voilà, il y a un élément qui permet de venir le porter autour du cou, une corde.
Bah, de choisir ce mode d'expression-là, c'est être vraiment entre l'intime et le monde extérieur. C'est travailler à la fois d'une manière très solitaire, mais pour ensuite rencontrer le public. Et le bijou même, voilà, c'est comme c'est un objet qui se porte. Donc les gens qui le portent, un objet qui va à la rencontre forcément de l'autre.
En bronze, patiné noir et en basalte, avec cette corde en chanvre, et qui peut se porter soit dans les mains, en prenant chaque anneau de part et d'autre, en les enfilant sur une main, ou en la portant autour d'un cou, du coup. Qui entraînerait une noyade, concrètement, si on se retrouve dans la mer. C'est une pièce qui a été faite avec du basalte qui vient d'une ville côtière dans le sud de la France, Agde. Et donc Médusa, c'est ce miroir à main fait à partir du moulage d'un poulpe en Corée du Sud. Parce que j'ai travaillé depuis 2015 sur le phénomène de la chirurgie esthétique faciale qui est très développée en Corée du Sud. Et donc c'est un peu une réflexion par rapport à l'utilisation du miroir à main très excessif par les jeunes coréennes dans le métro par exemple. Donc c'est un objet qui m'avait fascinée, j'avais envie de le reproduire. Et puis je travaillais aussi avec des patientes qui faisaient de la chirurgie esthétique. Et en parlant avec un chirurgien, on m'a parlé du Gangnam Goemel, qui est le monstre de la chirurgie esthétique. Et donc pour moi, c'était un petit peu ce miroir, l'image du monstre. Et en reprenant ce poulpe qui est consommé par les Coréens en grande quantité et vivant encore d'ailleurs dans l'assiette, ce qui est assez monstrueux pour nous Européens quand on arrive en Corée. Et voilà. Et puis les tentacules rappellent la chevelure de Médusa. Et je voulais faire un lien avec le mythe de Médusa qui risque de se pétrifier si elle se regarde dans son miroir, enfin dans un miroir. Et voilà, donc c'est un objet qui parle de la dangerosité de ce phénomène de la chirurgie esthétique en Corée du Sud.
Et qui est la page de couverture du catalogue.
Tout à fait, qui a été choisie et j'en suis très très heureuse et fière. Et voilà, donc il y a une surface miroitante, ça je ne l'ai pas dit, mais qui a été faite avec la technique du polissage. C'est la manière dont on fabriquait les miroirs traditionnellement en Corée, avec une pièce en bronze qui est polie sur une seule surface. Mon nom c'est Marine Dominizac, Strasbourg.
Jean-Claude Elena m'a dit un jour que le parfum et le toucher à distance Et si on parle de la parure, ça serait quoi, à vos yeux?
Le parfum comme touché à distance. Ah oui, c'est étonnant, ça, comme la parure rentrer en contact avec le monde, oui, en tout cas. Et d'une manière assez intime, puisqu'on la porte aussi sur soi. Et elle n'est pas toujours destinée à la vue de l'autre. Enfin, elle est aussi destinée à la vue de l'autre. Mais disons que c'est un dialogue assez subtil, la parure. Enfin, ça peut l'être, et dans le bijou contemporain, c'est souvent des dialogues assez subtils.
Parce qu'en fait, traditionnellement en Chine, cette technique-là, ce n'est pas utilisé pour l'ornement, c'est utilisé pour faire des sortes de peintures, que de la 2D, hein, c'est des panneaux au mur, pour faire des peintures figuratives qui représentent souvent des scènes de la mythologie. Donc normalement, ce n'est pas adapté au volume comme ça. Et donc moi, je reprends le matériau de surface habituel, hein, sur lesquels elles sont collées, qui est un espèce de pulpe de papier de riz qui est assez compressé, qui est un peu comme un carton, et donc je le mets en volume pour faire ces broches-là. Donc j'ai vraiment essayé d'être au plus proche du processus traditionnel, mais en le détournant, en l'adaptant en fait à mon projet.
Et vos bijoux sont-ils montrés en Chine?
J'en ai montré, mais pas ceux-là.
Je suis Brune Boyer, donc artiste française, éduquée en Suisse. J'exerce en France depuis 25 ans. Cette chance que Pascal Leclerc et maintenant Gaël Cornu m'aient fait confiance pour faire cette sélection d'artistes français.
Et rappelez-moi votre nom.
C'est Marion Delarue.
Et vous êtes
Du coup, je suis une artiste française. Et donc, je présente ce soir des pièces en plumasserie chinoise. Et j'ai fait ces recherches quand j'étais en résidence d'artiste en Chine.
Et comment expliquer les attitudes européennes différentes?
Alors le public, il est encore très 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 lent et très jeune par rapport à tout ça. Hein. Donc moi je répète toujours que le bijou d'art contemporain est un art jeune. Ça fait seulement 70 ans que les artistes ont commencé à travailler de cette façon pour le bijou. Donc il faudra encore beaucoup parler de ça, éduquer et surtout rappeler que c'est une pratique critique qui, dès le départ, a voulu non seulement s'affirmer, donc ces artistes ont voulu s'affirmer en tant qu'auteurs et pouvoir eux-mêmes signer leurs pièces, mais aussi voulaient venir avec des matériaux justement différents que précieux. Et cette critique qu'ils ont installée de la préciosité, la génération suivante a vraiment maintenu ce sens du questionnement et a voulu vraiment challenger toutes les traditions et conventions liées à la bijouterie, tout ce qui était les usages, les fonctions. Voilà, donc ils bousculent. Et quand on bouscule, ça dérange. Donc le public, effectivement, a besoin qu'on explique, de repères. Et c'est, je pense, le rôle beaucoup des journalistes de faire ça, de rappeler que c'est une pratique critique, souvent auto-réflexive, et maintenant on va déjà plus loin, et c'est pour ça que c'est bien votre question sur la jeune jeunesse de maintenant. Ça déborde et ça va même plus loin, donc il faut rappeler d'où ça vient pour effectivement mieux comprendre ce qu'il en est aujourd'hui.
Commissaire pour la Belgique, Françoise Van de Hoora, est-ce que le bijou ne s'est-il pas engagé? Engagé au sens politique. Commissaire pour la France, Brune Boyer.
Le bijou tel que moi je l'ai découvert, il était déjà très engagé il y a 30 ans. Et il est toujours assez engagé d'une autre manière, je pense. Le fait même de pratiquer le bijou, c'est un engagement, y compris politique. Il engage toute la personne aussi. Donc c'est un peu des choix de vie, c'est un peu donc un engagement politique dans ce sens-là.
Question du bijou contemporain. Au Grand Ornu Centre d'Innovation et de Design, Do You See the King, jusqu'au 11 février. Avec Marie Poc, Françoise Van de Hoora et Patrick Marchal. À Mons, Triennale du bijou contemporain, jusqu'au 4 février. Avec Nevin Arik, Anne Gua, Ornella Lavacara, Clémentine Corazzola, Brune Boyer, Marine Dominitzak et Marion Delarue, prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En fait, le but de cette technique, c'est de ne jamais avoir recours à des colorants artificiels et de vraiment rechercher dans les différentes espèces d'oiseaux les bonnes couleurs et les bonnes textures de plumes. Donc vraiment sans utiliser du tout de teinture. Donc ensuite, elles sont implantées une à une avec une colle traditionnelle et un pinceau. Et le but, c'est de créer une nouvelle composition où on va travailler le sens d'implantation et donner une uniformité au travail, donc, notamment à travers ce sens d'implantation. Et donc, l'intérêt, c'est de faire que se retrouvent différentes espèces d'oiseaux qui vont couvrir totalement la surface. Ça, c'est vraiment essentiel dans la marqueterie de plumes, c'est de recouvrir totalement la surface, de créer une nouvelle matière. Donc, c'est pas du tout de travailler. Souvent, en France, le travail de la plumasterie, c'est beaucoup plume par plume, en valorisant la plume en tant que telle. Ici, en Chine, le travail, c'est plutôt de créer une nouvelle matière, un nouveau matériau qui va un peu s'apparenter un peu à du velours ou à de la fourrure. Et donc voilà, plume par plume, de recréer une matière et de recouvrir totalement la surface. En fait, on a 9 animaux de la basse-cour, qui sont les basse-cours traditionnelles. Donc ça va être coq, faisan, pintade, canard, pigeon, dinde, caille, perdrix, coq, oie, voilà, oie, canard. Enfin, en gros, ils sont 9. Et en fait, cette histoire-là, l'idée, c'est qu'ils jalousent le perroquet, qui est toujours sur l'épaule du maître, qui a vraiment un statut particulier, qui se pavane, qui parade, qui converse avec le maître, donc qui a vraiment un statut privilégié. Et donc, ils le jalousent, ils décident d'unir toutes leurs plus belles plumes pour l'imiter.
Question du bijou contemporain par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est une production de la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Thank you.